m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est un enfant de la chanson. Il faut dire qu'il est tombé dedans quand il était tout petit en s'inscrivant à ses premiers concours de chant dès l'âge de 8 ans. Avec sa voix chaude et son timbre aisément reconnaissable, le beau gosse de Marseille, né d'un père arménien et d'une mère corse, est aussi le fils de la grande tradition de la chanson d'amour à la française. Auteur, compositeur, interprète, il a pris toute sa place dans la grande famille des Enfoirés et avec ses cousins et ses frères et sœurs en musique, il est devenu le père de pas moins de 11 albums. Son nouveau bébé s'appelle justement Un air de famille. Il est sorti chez Smart, Sony Music. Patrick Fiori est avec nous et vous m'en direz des nouvelles.
Ne m'oublie pas quand tu referas ta vie loin de moi, quand tu m'emmèneras moi au cinéma. Ne m'oublie pas, je n'oublie pas que dans tes bras je pouvais toucher la lune, que pour toi j'étais toute ta fortune. Ne m'oublie pas. Tu décides ta vie ailleurs, je ne t'en voudrais pas. Tout ce que je souhaite, moi, c'est ton bonheur. Mais me laisse pas grandir sans toi. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Et n'oublie pas de m'appeler.
Bonjour Patrick Fiori.
Et bonjour, comment allez-vous ?
Très bien, merci beaucoup d'être avec nous. Vous voyez, on vous a pas oublié, hein, même si ça fait 3 ans que vous n'avez pas sorti d'album. Et voyez, on vous appelle, puisqu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué de se voir en face à face et sans masque. Alors justement, Patrick Fiori, cet album, il a été largement écrit pendant le confinement.
Oui, une partie de l'album a été écrite avant le confinement, le nom de l'album aussi, mais bien évidemment, le trois quarts a été écrit pendant le confinement. J'avais du temps, je m'occupais de la famille, sincèrement, et voilà, donc j'étais dans mon petit studio et jour après jour, j'avançais sur des nouvelles chansons et voilà, et cette ère de famille est arrivée à un bon moment, je pense.
C'est propice à l'écriture, un confinement, on est obligé de faire le point, de se replier un peu sur soi-même?
C'est propice à manger un peu plus aussi. C'est propice à l'écriture, mais oui, parce qu'en fait, ce genre de silence qu'on n'avait pas souhaité est arrivé là d'une manière un peu catastrophique, et du coup, il fallait essayer de le gérer, l'apprivoiser, le dompter. Donc, bien sûr que ça fait passer beaucoup plus de temps avec les gens qu'on aime, avec la famille, avec le noyau, avec le cœur. Mais moi, je suis un garçon, je suis un bâtisseur, donc faire de la musique, ça fait partie de ma vie, c'est en permanence. Et puis je cherche le silence, je cherche cet espace-là, un peu tranquille pour composer. Et là, en l'occurrence, ben malheureusement, je dirais, et heureusement, j'avais tous ces moments-là pour créer.
Mais même avant le confinement, ce travail de composition et d'écriture, c'était déjà pour vous un travail en solitaire, une volonté aussi de changer peut-être le rapport que vous avez au temps?
En solitaire ou pas, puisque de toute façon, je fais des chansons. Quand je vois que je bute un peu et que j'abandonne, je désespère pas, j'appelle les copains. Mais c'est quelque chose d'important pour moi de faire de la musique et de composer pratiquement tous les jours. J'écris tous les jours, je compose tous les jours, bien évidemment. Et des fois, j'ai des belles surprises, des fois, j'en ai moins. Mais ça me permet aussi d'avancer le travail un petit peu, de mâcher un peu les albums futurs ou avec d'autres chansons, d'autres intensités, d'autres émotions, d'autres faits divers peut-être aussi. Donc ouais, travailler pour moi, c'est quelque chose d'agréable, quoi.
Alors il y a le travail de composition et puis il y a aussi se produire, hein, quand on est un artiste comme vous. Vous avez proposé d'ailleurs un concert en ligne, hein, depuis l'Apollo Théâtre à Paris. Ça vous a fait du bien de retrouver ce contact avec le public par écran interposé, ou ça vous a surtout fait drôle?
Ça m'a fait et du bien et drôle. Voilà, du bien de chanter, bien sûr, parce que je savais qu'il y avait des milliers de connectés derrière et que les gens avaient pris sur leur temps pour venir nous rejoindre et venir se connecter à l'Apollo. Sont venus cueillir une place, en fait, comme une place de concert, bien évidemment. Mais bon, donc moi, j'ai passé un moment super agréable. Je vous avoue que de chanter pour 10 écrans, c'est un peu compliqué, mais finalement, de l'autre côté, c'était très généreux puisque les gens étaient là. Mais donc c'était une super expérience, mais je vous dis que c'était très bizarre, parce que chanter pour une salle vide, voilà, utiliser seulement la scène et pas la salle de spectacle avec les gens dedans, C'est particulier. Mais bon, voilà, c'était un des paris que je voulais relever. Et puis c'était surtout une envie commune de la part des musiciens, de la part de toutes les équipes, les assistants. Et puis de faire retravailler tout le monde, c'était quelque chose qui était important pour moi aussi. Au-delà du fait de retrouver le public, bien sûr.
La vie d'artiste a évidemment changé depuis le mois de mars dernier. La vie de l'ensemble des Français, pas seulement des Français d'ailleurs. Hein, notre auditoire international connaît aussi tous ces changements. Et cette vie qui a changé depuis le début de la pandémie, cette vie quotidienne, eh bien, elle sert de support à une chanson de cet album, une chanson écrite et composée par Jean-Jacques Goldman. C'est vous qui le lui avez demandé ou il vous a proposé ?
Non, je pense que c'est... Non, je lui ai demandé des chansons, comme d'habitude, chaque fois que j'embarque sur un album, je lui passe un coup de fil, parce que c'est vraiment un compère depuis presque 20 ans maintenant. Et donc j'aime bien le tenir au courant, et pendant cette période de pandémie, pendant ce deuxième couvre-feu, je dirais... Je lui ai passé un coup de fil et puis cette chanson est arrivée, voilà. Et j'ai eu non pas des difficultés à la chanter, mais elle était tellement poignante. J'ai ressenti que c'était son émotion aussi pour une fois avec Jean-Jacques. À chaque fois quand il écrit, c'est toujours ciblé, mais j'ai ressenti que c'était aussi son émotion que je chantais. Donc elle a été compliquée à chanter. Et très heureux finalement qu'elle soit sur l'album. Nous ne le savions pas.
Je te chante un monde presque oublié, où les grands-mères embrassaient les enfants. Un monde tête à tête et main nouée, sans crainte ni gants, il n'y a pas si longtemps. Je chante un monde envolé, je chante une foule tout emmêlée. Épaule contre épaule et pleine voix, ces évidences aujourd'hui des regrets, mais nous ne le savions pas. Ici mur et pont-levis, main dans les mains que nenni, filets foules s'éparpillent et nos villes coupent les ponts. Demoiselle permettez, on pourrait boire un café, les yeux dans les yeux, mais la belle effrayée s'est envolée. Je chante un monde tout défaité, noces, anniversaire, adieu, périlleux. Nos élans, nos étreintes embarrassées, danse à distance et soirée couvre-feu. Éclat de rire étouffé, je pleure nos rendez-vous mélangés. Stade et théâtre, aréna, cinéma. Nous avons tous une dernière fois, mais nous ne le savions pas. Ici nous répand le vie, main dans les mains que nenni, filets foules s'éparpillent, nos villes coupent les ponts. Demoiselle permettez, on pourrait boire un café, les yeux dans les yeux, mais la belle s'est envolée. Serpentine et coquillon, on enfantine ses noms, à vos larmes citoyennes.
Nous ne le savions pas, Patrick Fiori qui chante Jean-Jacques Goldman dans VMDN sur RFI, et dès les toutes premières mesures et pendant toute la chanson, on reconnaît évidemment la patte Goldman. Il fait partie de la famille, Jean-Jacques Goldman, Patrick Fiori ?
Ah, il fait partie de la famille, oui, depuis de nombreuses années maintenant, et puis c'est un soldat du cœur, c'est un chevalier fidèle, quoi. Aussi bien pour les mots que pour la vie, voilà, parce que des conversations bien évidemment... sont largement autour de la musique, mais les discussions viennent des histoires de la vie, des sentiments et de savoir comment vont les gens que nous aimons autour de nous. Et puis quand il écrit cette chanson là, voilà, je vous l'ai dit, je vis un moment particulier à ce moment là et peut-être une grande prise de conscience. Et je m'excuse, tout à l'heure je vous ai dit que c'était pendant le deuxième confinement, non, c'était pendant le premier confinement, et il avait même senti que ça allait se durcir, quoi. C'est-à-dire que quand il a fait la chanson, je crois qu'il a écrit des choses qu'il avait anticipées, comme d'habitude.
Oui, un homme d'astin, effectivement, Jean-Jacques Goldman. Vous avez fait pas mal de chemin ensemble. Il y a eu évidemment le duo 4 mots sur un piano. Il y a eu plein d'autres collaborations près de 20 ans, vous le disiez. Comment est-ce qu'il est passé, comment vous êtes passé du statut de fan, puisque c'est par une lettre de fan, votre premier contact avec Goldman, au statut de co-artiste, comment vous avez pu devenir fan et ensuite, de partager la scène avec lui?
Plus que fan quand même, parce que moi, l'intérêt pour cet homme, il est au-delà de ses chansons, bien sûr, on le sait tous, il écrit avec cette justesse, avec cet équilibre indéniable qui fait sa signature, mais c'était aussi sa manière de fonctionner, sa manière de parler, toujours cette humilité de tirer les choses vers le haut, de tirer les gens vers le haut, à chaque fois pour leur donner le pouvoir en fait. Et moi ça m'a toujours surpris, j'ai toujours aimé les gens qui font les gens, et qui leur donne les outils pour qu'ils puissent savoir s'en servir. Donc après, bien évidemment, son travail, je le connais. Je lui ai écrit il y a très longtemps. J'avais envoyé à peu près 500 lettres, un peu à droite à gauche, à plein de producteurs, pour la petite histoire. Je vais vous la raconter parce que c'est plutôt sympa. Et du coup, évidemment, moi, j'ai fait mon envoi, avec toutes ces lettres qui sont parties un petit peu dans la nature. Et sur les 500 lettres que j'ai envoyées, il y a une seule personne qui m'a répondu, et c'était lui. Et il m'a pas juste envoyé un petit courrier comme ça, c'est un courrier écrit de sa main où il me dit écoutez, je ne peux pas pour l'instant, il y a Céline Dion, il y a Khaled, bref, des artistes de l'époque dont il devait certainement s'occuper, et il me dit, je vous souhaite de trouver des auteurs et des compositeurs à la hauteur de votre voix. Alors le temps a passé, et puis sur les Restos du Cœur, par rapport au succès de Notre-Dame de Paris, je suis allé le voir et comme il a senti que j'étais rempli d'humilité de par mon éducation et que je voulais surtout pas désorganiser les choses, il m'a tendu un petit bout de papier, et puis il m'a regardé bien droit dans les yeux, et puis il m'a dit, cette phrase délicieuse, il m'a dit, si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler. Et j'ai attendu 15 jours. Pendant 15 jours, j'ai regardé ce papier, comme on dépose quelque chose de précieux sur une table de nuit. Et puis à un moment, j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé, et on s'est rencontrés, et je vous parle de ça, ça fait 18 ans maintenant.
Alors la famille Patrick Fiori, elle est au cœur de cet album qui s'appelle d'ailleurs Un air de famille, et sur la pochette, on vous découvre aujourd'hui à droite avec une chemise bleue, et à côté de vous, il y a un petit garçon qui, sans trop m'avancer, un petit air de famille avec vous, je me trompe?
Non, vous vous trompez pas, c'est totalement moi. Voilà, c'est une photo de classe que j'ai retrouvée, puis j'avais envie de faire un montage. Je trouvais que c'était intéressant, et même pour moi, déjà pour les gens, pour qu'ils puissent me découvrir autrement et se dire que finalement, quand on a quelque chose de précis dans la tête, je dirais pas réaliser ses rêves, finalement c'était un peu ça, mais la musique m'a tellement séduit, m'a tellement pris, m'a tellement rongé le ventre que déjà enfant, j'étais dans ma tête déterminé, peut-être pas pour les adultes autour de moi, mais dans ma tête déterminé de faire ce métier. Pas spécialement d'être connu, de passer à la télévision, de toutes ces paillettes qui font finalement un peu le spectacle, mais cette envie d'être utile et cette envie de faire plaisir. Donc cet enfant qui est à côté de moi, c'est moi. J'y ai cru déjà et j'y croyais déjà à cette époque-là. C'est juste pour dire que finalement, quand on a les choses vraiment au fond de soi et qu'on les présente sincèrement, on peut arriver à être un enfant et à devenir l'homme que je suis aujourd'hui, avec aujourd'hui cette carrière.
Finalement, tu t'en vas à 15 ou à 30 ans. C'est comme ça, tu crois partir devant, mais là dans tes valises, ils sont avec toi. À chaque tournant, tu verras, pour un oui, pour un non, tu rappelleras au moindre tourment. On l'a tous tiré au hasard, le jeu du départ. Et peu importe où tu iras, bien si tu as froid, est-ce que tu es d'accord pour venir avec moi? On a tous besoin de savoir, tabadabada, que l'on est chez soi quelque part. Mmh, oh.
famille, il y a une terre et la mer, une table et des verres, des amis, des repères, des chansons, des galères, viens là qu'on te sert dans nos bras ouverts. Dans la famille, il y a toujours un moment.
Un air de famille, Patrick Fiori, notre invité aujourd'hui dans VMDN sur RFI. Alors j'ai une question très importante à vous poser, Patrick Fiori. Comment vont le chat et le boxeur?
Aussi bien que le grand-père et la grand-mère.
Très bien, donc je suis rassuré. Alors, votre famille à vous, un petit mot quand même. Père arménien, mère corse. Alors on se dit, ça fait un petit peu fils à fleur de peau, fils ultra sensible. C'est un cliché ou c'est une réalité?
Non, c'est pas un cliché, c'est une réalité. Pendant que j'étais en train d'écouter la chanson, je me disais mais quelle sensibilité quoi. Non, mais je pense qu'il y a de belles histoires qui me viennent de l'Arménie avec ses racines incroyables. Il y a de magnifiques histoires qui me viennent de la Corse. Évidemment, ça fait des chanteurs tout ça. Et puis ça projette des choses. Ça donne de la sensibilité. Voilà. Et puis dans la famille. Comment vous dire, la sensibilité, c'est un héritage, quoi.
Ouais, vous avez beaucoup chanté la Corse, hein, et on vous comprend. Vous êtes un peu plus discret sur l'Arménie. Vous avez interprété Les Montagnes d'Arménie il y a une dizaine d'années, chanson très émouvante. C'est difficile d'aborder l'Arménie en chanson?
Non, pas du tout. Le seul truc, c'est que j'ai découvert ça sur le tard. J'ai tellement pas été éduqué avec l'histoire que je suis allé cueillir et chercher tout seul du côté arménien, du côté de mon papa. On n'a jamais pointé du doigt l'ennemi, on n'a jamais fait de comparaison ou de mauvaise comparaison. Voilà, j'ai tellement grandi dans ça que du coup pour moi tout était très naturel. Et encore une fois, quand on est un jeune garçon, ce genre d'histoire-là de ce qui a pu arriver au peuple arménien, c'était quelque chose que les adultes nous cachaient. Donc l'Arménie, elle était, je dirais, un petit peu moins présente parce que c'était une histoire particulière, parce que c'était une destination qui n'est pas spécialement une destination de vacances, et que la Corse, c'était, je dirais, cette île de beauté qui avait plus de proximité pour moi, et c'était beaucoup plus facile. Donc ma mère nous chantait beaucoup plus de chansons. Elle était certainement peut-être un peu moins discrète que mon père, et donc du coup, dans la discrétion arménienne, mon père nous parlait moins de ça et nous chantait moins l'Arménie. Donc je suis allé découvrir ça sur le tard. Mais sinon, c'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui de chanter l'Arménie, de pouvoir y aller aussi et d'aller voir les membres de ma famille là-bas.
Et alors, comment est-ce que vous avez vécu justement le récent conflit du Haut-Karabakh?
Très mal. Comme beaucoup de gens, pas spécialement issus de la communauté arménienne. Mais écoutez, je crois que ce sont des soldats du cœur, les Arméniens, et ce sont des gens qui sont dans une discrétion et une élégance permanente, même dans le pire des moments, même dans les pires des cas. Je crois que l'heure est à l'humanitaire, l'heure est à essayer de réparer ces soldats, ces gens qui se sont fait avoir par le vide, parce que la menace arrivait du ciel, qui n'ont jamais vu l'ennemi en face de leurs yeux. Donc écoutez, pour tout vous dire, je pars en Arménie là dans quelques jours pour voir ce qui se passe vraiment là-bas, même si je le sais au fond de moi, pour aller voir les gens, pour aller voir ma famille, pour faire un constat, voilà, essayer de mieux comprendre les choses.
Sur les épaules de mon père, d'ici je vois mon château.
les épaules de mon père.
Dès qu'il a courbé le dos,
j'ai posé les pieds à terre.
Je lui ai chanté ces mots.
Viens, on danse au milieu des gens.
Sur les épaules de mon père, notre invité Patrick Fiori en duo avec Angelina, la gagnante de la 4e édition de l'émission The Voice Kids en 2017. Elle était dans votre équipe, Patrick Fiori. Depuis quelques années, et notre émission, vous m'en direz des nouvelles, en est le témoignage, on parle énormément, beaucoup d'artistes évoquent la question de la maternité et de la sororité. On parle beaucoup moins de paternité, c'est une question de pudeur.
Non, c'est pas une question de pudeur. Et puis d'ailleurs, vous avez raison, on parle moins de la paternité. D'ailleurs, quand on commence à avoir des enfants dans la vie, vous constaterez un truc, c'est que quand vous allez chez les libraires, il y a 2685 livres pour donc les femmes qui vont devenir maman, et pour le guide des hommes, il y a pas grand chose. Il faut un peu se débrouiller quand même. Mmh. Donc, là, c'est important pour moi d'accompagner les enfants. C'est important pour moi The Voice Kids. Je trouve que j'ai une place légitime. Et comme je l'ai dit souvent, si j'avais pas été chanteur, j'aurais été nounou. Alors, nounou, certainement, parce que j'en avais envie, et puis par la force des choses. Parce que dans la famille, je suis 11 fois tonton, et je m'en suis occupé quand mes frères et sœurs allaient travailler. Donc voilà, c'est pas important pour moi, c'est vraiment quelque chose de familier. Donc, moi, cette enfance-là, je l'ai encore au fond de moi, et bien, je la cultive.
Mais
donc, j'accompagne les kids.
Mais comment est-ce que vous voyez le rôle d'un père, Patrick Fiori?
Je crois que le rôle d'un père, il s'apprend pas, c'est sur le tas. Je crois qu'il faut juste s'acheter un peu de sommeil avant, et puis après, on essaie de tenir la baraque. En tout cas, ça se passe très très bien en ce qui me concerne, et je suis très très heureux de ça. Je crois que j'ai dû commencer à vivre le jour où le premier est né. Voilà.
Et si vous aviez été nounou, vous leur auriez raconté des histoires, évidemment, aux enfants. Vous venez d'ailleurs de sortir un livre pour enfants, Zino des ménages, un livre illustré par Yann Tisseron. Vous pouvez nous en dire un petit mot?
Bien sûr, mais en fait c'est en relation avec ce que je vous disais juste avant. Comme je gardais les enfants et je les élevais à ma manière, doucement, j'inventais des histoires. En fait, au lieu d'ouvrir des livres, il y en avait pas beaucoup dans les chambres. Au lieu d'ouvrir des livres, en fait, les enfants me demandaient de claquer des doigts et d'inventer des histoires. Et donc je faisais ça. Alors il y en avait des jolis, il y en avait des moins bien, mais quoi qu'il en soit, je m'apercevais avec le temps que ça leur développait des sentiments. Alors certaines histoires les faisaient rire, d'autres pleurer, d'autres ça leur faisait ouvrir les yeux en grand. Et ces histoires-là, en fait, je m'en suis rappelé, puis je les ai mises de côté, donc il y en a à peu près une centaine. Et avec le temps, de par The Voice Kids aussi, évidemment de par la paternité, j'ai eu envie de continuer cette aventure et de créer ce personnage qui s'appelle Zino. Voilà, il y a plusieurs volumes qui arrivent, mais le premier s'appelle Zino déménage. Et j'avais envie de ça vraiment, quoi. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Alors voilà, Zino a pris vie. Et puis aujourd'hui, sa première histoire s'appelle Zino déménage. Et les autres arrivent.
Les autres arrivent. Donc un début de collection, lancé par Patrick Fiori. Alors The Voice Kid, on l'évoquait à l'instant. On a vu évidemment sur nos écrans. Et puis on imagine aisément ce que vous avez pu leur apprendre aux enfants comme Angelina et ses camarades. Mais si on renverse un instant la perspective, Patrick Fiori, qu'est-ce que cette aventure télévisuelle vous apporte à vous, personnellement et artistiquement parlant?
Alors déjà, personnellement, d'être près des enfants, ça remet tout à zéro. C'est un peu comme l'altitude zéro, ça remet tout à plat. Et puis, les enfants ont cette faculté de nous faire ressortir cette émotion que l'on cache, ou en tout cas que l'on qu'on enfouit un peu quelque part quand on devient adulte. Ils ont aussi cette faculté de nous faire retrouver nos yeux d'enfant et ces instants délicieux que nous avons tant aimés et tant adorés, quand on était de petite taille. Et donc déjà, ça c'est sur le premier plan. Et artistiquement, je suis complètement bluffé par cette génération de petits bouts qui parfois ont entre 9 et 15 ou 16 ans, avec un aplomb, une dextérité, une puissance vocale. Enfin, je sais pas où est-ce qu'ils vont chercher toutes ces émotions et toutes ces informations-là, mais croyez-moi, quand on est sur ce siège-là, on est véritablement surpris artistiquement par ces enfants qui occupent l'espace, qui chantent comme des jongleurs et qui ont certainement emprunté de droite et de gauche des influences d'autres artistes, mais qui arrivent à canaliser tout ça, à le mettre dans une genre de boule et vous offrir leur personnalité. Alors, sincèrement, artistiquement, c'est très troublant de vivre ça.
Chanter, ça s'apprend ou c'est d'abord un don?
Non, je crois que c'est inné, en fait. Après, ça se travaille. Voilà, mais je crois que dès qu'on sort du ventre de cette femme qui est notre maman, je pense que pendant 9 mois, si on a écouté de la musique, c'est mieux. Et puis si on l'a pas écouté, si on est destiné et fait pour ça, chanter, ça s'apprend pas. Chanter, ça s'accompagne, ça se perfectionne, mais je pense qu'on est comme ça.
Alors, il y a une autre chanson sur l'album qui s'appelle « J'ai appris ». Alors, je vous ai concocté une petite série de questions sur le thème « Qu'avez-vous appris, Patrick Fiori ?» Première question, « Qu'avez-vous appris ?» de Franck Fernandel.
J'ai appris que c'était un garçon généreux, j'ai appris qu'il était tordant de rire et surtout qu'il aimait cet esprit de famille et que chaque pétale de rose de la vie pour lui était importante. Et je pense qu'il en mettait une de côté à chaque fois pour les gens qu'il aimait vraiment profondément.
Voilà, Franck Fernandel, c'est celui qui vous a mis le pied à l'étrier avec une comédie musicale qui s'appelait La Légende des Centeniers. Qu'est-ce que vous avez appris à la télévision dans l'émission de Jacques Martin, Les Habits du Dimanche?
Oh là là. Alors, c'était Les Habits du Dimanche, c'était avec Léon Zitrone, je crois. C'était pas Jacques Martin, c'était Léon Zitrone. Alors, ce que j'ai appris, c'est la rigueur. C'est savoir perdre, c'est un monde un peu particulier puisque j'arrivais pour la première fois sur des énormes émissions de télé qui, je pense, à l'époque, au niveau de la puissance, étaient identiques à celles d'aujourd'hui. Mais j'ai appris à comprendre le fonctionnement de la télévision et puis le fonctionnement de ce métier-là. J'ai entendu le mot show business. Voilà, pour moi, c'était plus show que business. Et finalement, j'ai compris que le show, c'était bien, mais que le business, c'était important aussi. Et surtout, j'ai appris une chose fondamentale, c'est que chanter bien, ça suffit pas.
Qu'est-ce que vous avez appris, Patrick Fiori, en faisant la première partie de Gilbert Montagnier?
Ah là là, ben, j'ai appris qu'il y avait des artistes qui avaient la gentillesse de faire passer des petits jeunes inconnus au bataillon, enfin, à part dans leur quartier. Donc c'était mon cas. Voilà la générosité de certains artistes, là, dont celle de Gilbert Montagnier, qui a accepté de faire passer un petit jeune et qui m'a attrapé juste après en me disant, un peu comme Dalida à l'époque que j'avais rencontré, et qui m'a juste dit en me tenant la main, tu sais Patrick. Et donc moi j'étais jeune garçon, il me dit, tu auras une grande carrière. Et donc j'ai dit, ah bon, tu crois? Il me dit oui, parce que j'entends les battements de ton cœur et je les sens généreux. Donc j'ai bien voulu le croire. Alors ben, les battements de mon cœur sont toujours là et la générosité, c'est un héritage de famille.
Et qu'est-ce que vous avez appris, Patrick Fiori, de la tournée Notre-Dame de Paris?
Ouh là 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 là. Alors j'ai appris qu'au départ, cette comédie musicale-là n'était absolument pas gagnée, que personne voulait de ses chansons sur les radios. Et j'ai appris qu'une chanson pouvait bouleverser une vie. Notre-Dame de Paris, la chanson Belle en trio avec Garou et Daniel Lavoie, nous a fait vendre plus de 19 millions d'albums. Et j'ai appris que, en fait, il fallait rien lâcher dans la vie, puisque comme personne n'y croyait, le premier passage qui a eu lieu sur une radio dont je tairai le nom, une grande radio nationale, nous a accompagnés, nous a fait comprendre que quand on a une conviction, quand on a des convictions et qu'on a envie d'emmener les choses loin, on peut le faire. Je me souviens de Charles Tallard qui nous a quittés récemment, qui était le producteur de cette comédie musicale-là, qui a essuyé tellement de refus devant cette chanson-là, devant cette comédie musicale-là, mais qui a eu le courage de nous emmener sur cette fameuse radio, qui nous a passé une fois. Et derrière ça, quelques mois plus tard, c'est devenu la chanson préférée des 50 dernières années par les Français. Et donc, je vous le disais, par rapport aux chiffres, une chanson qui a explosé tous les records au niveau des ventes, et surtout qui a aujourd'hui, je pense, accumulé le plus grand nombre de téléspectateurs et de spectateurs venus voir la comédie musicale.
S'il faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux, j'y vais. S'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu, j'y vais. Comme un tout premier regard, le début de mon histoire, et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre, d'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous porte. Traverser les mers pour embraser les terres de feu, j'irai retrouver mes rêves d'hier pour leur donner le monde en mieux, j'y vais. Quand le passé me distance, et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre, d'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera. Il est là, il est la voix qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte pas. Dans les chansons, les prières, tous nos secrets perdus dans le temps, j'y vais. Dans ces printemps sans hiver, dans tous les miroirs aux reflets d'avant, j'y vais. C'est dans chacun de nos pas.
Invité Patrick Fiori en duo évidemment avec Florent Pagny. Alors pour rester dans la métaphore familiale ou dans la culture corse, c'est un cousin Florent Pagny?
C'est pas un cousin, mais on a un air de famille quand même. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça fait 10 ans que j'ai envie de travailler avec lui. Ça fait 10 ans que je lui cours un petit peu derrière, mais c'est un genre de Speedy Gonzalez, Florent Pagny, quoi. Une fois que vous l'avez, vous croyez que vous l'avez attrapé, hop, il vous a échappé. Et puis, il savait que par la bande, en fait, par quelques artistes que nous avons en commun comme amis, il savait que je voulais qu'on fasse quelque chose ensemble. Alors, je lui ai passé un coup de fil et je lui ai proposé cette chanson-là. Et il m'a dit tout simplement, j'y vais, j'embarque dans cette chanson.
Vous êtes deux chanteurs à voix, deux chanteurs qui ont voulu faire cette carrière très tôt, dès l'enfance, deux artistes qui chantent l'amour dans la grande tradition de la chanson d'amour à la française que j'évoquais au tout début de cette émission. Et puis aussi, comme lui, vous aimez envoyer du bois, comme on dit, quoi, tester un peu vos limites vocales. Il y a un côté performance aussi, non?
Alors, peut-être performance, mais il n'y a aucune compétition. Parce que, sincèrement, chanter avec Florent Pagny, il faut juste rester très calme. Parce que quand il décide de vous envoyer 2-3 notes dans la tête, il sait le faire largement, quoi. Donc voilà, c'est vraiment l'esprit, c'était vraiment de se trouver pour chanter quelque chose ailleurs que sur un plateau télé, quelque chose qui puisse être ancré, quelque chose qui puisse rester. Donc c'est pour ça, je pense qu'il a accepté l'invitation sur l'album, et je crois que sincèrement que la chanson l'a complètement séduit.
Mais alors justement, allier performance vocale et émotion, Patrick Fiori, on se dit, nous, quand on est spectateur, quand on vous voit, mais plus encore quand on vous entend, on se dit que c'est ça la grande difficulté, de pouvoir tenir les deux en même temps, d'un bout à l'autre de la chanson, et peut-être même d'un concert.
Ouais, on va dire que bon, ça va avec des tournées. Enfin, quand on peut les faire, des tournées de entre 100 et 110 concerts par an, ça va, ça aiguise la voix, ça aiguise le corps. D'ailleurs, je crois que c'est en tournée que j'arrive à maigrir parce que sinon c'est une catastrophe. Et pour Florent, c'est un peu pareil. On est des mecs de scène et je pense qu'on a envie d'être utile, quoi, d'utiliser cet organe, d'utiliser notre voix pour être en tout cas pour véhiculer des bonnes ondes, des choses positives dans la musique, dans les chansons, avec les auteurs-compositeurs avec lesquels on travaille. Je crois que c'est le mot d'ordre, en fait. C'est évidemment faire plaisir, se faire plaisir.
Alors il y a Florent Pagny, il y a Angela, et puis un troisième duo hein, sur cet album, un duo avec le rappeur Soprano. C'est pas la première fois, hein, puisqu'il y avait eu Chez Nous en 2017 sur votre album qui s'appelait Promesse. Qu'est-ce qui vous rapproche tous les deux?
Je crois à la région Marseille, je crois l'accent et je crois à la culture aussi parce que on a dans nos origines, lui comorienne et moi arménienne, des similitudes en fait pour ces comoriens qui sont arrivés dans le port de Marseille, ces arméniens qui sont arrivés dans le port de Marseille et qui ont essayé de se fabriquer comme ça avec une pièce d'or cousue sous un bouton ou avec un peu d'argent certainement ou en tout cas une faible richesse. J'aime bien dire ça, pour essayer de se construire. On avait envie, sur la chanson précédente, sur l'album Promesse, qui s'appelait Chez nous au Plan d'Ao, de parler de nos quartiers et de cette construction qui est assez mystérieuse, finalement, et à découvrir. Voilà. Et je crois que l'amitié s'est solidifiée au fur et à mesure du temps. Soprano m'a invité à chanter avec lui, sur les plateaux télé, moi je l'ai invité aussi. Et puis on s'est dit, pourquoi on tenterait pas encore l'expérience sur cet album-là, sur l'album Un air de famille, parce que c'est, je pense, décidément ce que nous avons en commun. Et l'amitié est là, elle est très très présente, même si elle est très discrète avec Soprano. On a voulu écrire une chanson en deux jours, celle-ci s'est faite en deux jours, qui s'appelle « Si tu tombes », sur l'amitié. « Si tu tombes, je te tiendrai la main une seconde, aujourd'hui ou demain, mais sache, Soprano, qu'avec toi, je ne crains rien. »
On écoute.
On en a fait des anniversaires, des mariages, des baptêmes, tant de prières. La vie est une page blanche qu'on a remplie depuis l'enfance. Qui aurait pu imaginer qu'on se ressemble? Combien de fois on s'est roulé par terre? Avoue maintenant que t'as un foutu caractère. Une poignée d'années plus tard, on est les mêmes dans le miroir. Y a tant d'amitié, tant de promesses qui s'égarent. Si tu tombes, je te tiendrai la main. Une seconde, aujourd'hui ou demain. Sache qu'avec toi je ne crains rien. Laisser les plumes traverser les déserts. On a croisé tant de trésors, mais le plus précieux, le plus fort, c'est de les aimer, les protéger, être père. Si tu tombes, je te tiendrai. Je ne crains.
Si tu tombes, Soprano et Patrick Fiori. Merci infiniment, Patrick Fiori, d'être entré aujourd'hui dans la grande famille de VMDN. Et puis une dernière chose quand même, parce que j'ai appris qu'on vous verrait bientôt à la télévision sur France 3.
Oui, j'ai tourné mon premier 90 minutes qui s'appelle Mauvaise Graine. C'est sur France 3. Je pense que ça sera pour une diffusion l'année prochaine. Et voilà, c'était une expérience nouvelle pour moi. J'ai vu le film, enfin j'ai vu le 90 minutes. Je me suis vu pour la première fois de ma vie. Ça m'a fait très drôle. Bon ben, écoutez, j'attends que ce soit diffusé. Puis si ça marche pas, j'ai un vrai métier. Donc
bien. Bon, vous jouez aux côtés de Michel Jonas.
Oui, Michel Jonas joue le rôle de mon papa en fait. Voilà, pour le pitch vite fait, je suis un garçon qui a pris 8 ans de prison pour un crime qu'il a pas commis et qui se fait attraper au volant d'une voiture parce qu'il emmène des potes dans la cité voisine. Et puis voilà, et l'histoire commence là et je monte un centre de rupture pour jeunes délinquants. Un centre de rupture pour jeunes délinquants dans un village, et donc évidemment ça fait mauvais genre, et il y a un de mes enfants qui se fait tuer, voilà, il y a un crime qui est commis, et il y a deux enquêtes qui sont montées, il y a mon enquête à moi et l'enquête d'une capitaine qui arrive dans la région et qui s'installe. Voilà, je vous raconte pas la suite, c'est intéressant.
Non, on va s'arrêter là, on attend évidemment de voir la fiction. Interpréter un rôle et interpréter une chanson, c'est le même travail ?
Non, c'est pas la même chose. Interpréter une chanson, ça dure 3 minutes. Interpréter un rôle, ça dure 90 minutes. Voilà. mais c'est pas le même exercice, en fait. Tout simplement. Je connaissais pas, je savais pas. C'est beaucoup plus long de tourner. C'est très 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 long. Et en fait, comme je suis un garçon dans l'action, voilà, ça a été un peu particulier pour moi. Mais vraiment une expérience à revivre, parce que c'est toujours pareil. Hein. C'est les gens avec qui on travaille, avec qui on fabrique les choses. Et là, le réalisateur Thierry Petit a été extraordinaire pour le jeune acteur que je suis. Il a été d'une patience incroyable. Et du coup, ben, le résultat, je crois, n'est pas mal, finalement.
Eh bien, on verra ça. Merci beaucoup, Patrick Fiori, d'être passé nous voir. Je rappelle que votre album En Air de Famille est disponible chez Smart Sony Music.
C'est moi. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez autour de vous. Et je vous dis à bientôt.
On en a perdu des êtres chers. Laissez des plumes traverser les déserts. On a croisé tant de trésors, mais le plus précieux, le plus fort, c'est de les aimer, les protéger, être père. Si tu tombes, je te tiendrai.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Qui a dit que les livres devaient rester sagement rangés dans les bibliothèques et librairies en attendant d'être ouverts ? En Seine-Saint-Denis, pas loin de Paris, un conteneur a pris place sur le parvis d'une gare, une librairie non conventionnelle et un projet audacieux que nous fait découvrir notre reporter Fanny Blechner.
La gare de Saint-Denis est l'une des plus fréquentées d'Île-de-France. Chaque jour, plus de 90 000 voyageurs s'y pressent, s'y croisent et s'y cultivent. Depuis le mois de septembre, une drôle de librairie a pris ses quartiers sur le parvis. C'est Luc Pinto Barreto qui en est à l'origine.
Moi, j'étais beaucoup dans l'idée de ouvrir une librairie pour les personnes qui ne vont pas en librairie. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'être dans un espace public qui est très fréquenté, où il y a du monde qui passe. Et l'idée, c'était de mettre les livres le plus possible à la vue des passants.
Une idée partagée par les clients, à l'image de Samira.
Bonjour, bienvenue.
Ça donne la possibilité en fait à plein de personnes qui peut-être n'étaient pas portées par la lecture de s'y intéresser, et à d'autres personnes comme moi qui aiment lire, ben de trouver un autre lieu de voilà pour trouver des livres quoi, autre qu'une médiathèque ou qu'une bibliothèque avec pignon qui a vraiment pignon sur rue.
Samira repart les bras chargés, un livre pour sa fille qui l'attend dans sa poussette et trois pour elle, Petit Pays de Gaël Faye et deux romans de Maryse Condé dont elle a entendu parler sur le compte Instagram du dealer de livres, le pseudonyme de Luc Pinto Barreto depuis fin 2015.
En fait, à l'époque, je voulais créer une chaîne YouTube pour faire un peu, on va dire, des chroniques littéraires, entre guillemets, et il cherchait un nom qui puisse être plutôt sympa, accrocheur. Et c'est dealer de livres qui m'est venu. J'ai sans doute été aussi un peu influencé par le hip-hop, parce qu'à l'époque, je me rappelle qu'il y avait Passy qui avait sorti un album collectif qui s'appelait Dealer de rimes.
Des rimes, des livres dont il a voulu faire son métier, une reconversion professionnelle, car jusqu'en février 2019, le libraire était technicien de maintenance dans l'hôtellerie, mais il a voulu donner un sens à son activité au quotidien.
C'est un quartier qui est beaucoup décrié, le quartier de la gare, et c'était un quartier dans lequel j'avais pas envie d'être juste là à me plaindre de ce qui ne va pas, mais aussi de pouvoir peut-être apporter ma petite touche. Et c'est important pour moi de lier activité économique et activité humaine, ou je ne sais pas comment l'appeler. Et le métier de libraire, ça me semble être le bon compromis.
C'est ainsi qu'à l'été 2019, il s'installe avec une simple table sur le Paravis. Et l'initiative fait parler, les passants sont conquis. Alors grâce à l'aide de subventions, mais aussi d'une cagnotte en ligne qui lui permet de récolter 16 000 euros, il se lance dans l'achat de son conteneur, grâce auquel il est non seulement à l'abri des intempéries, mais peut aussi proposer davantage de références. Dans cet espace de 13 mètres carrés, on trouve des romans, des essais, des BD, de la littérature jeunesse et différentes thématiques.
Pour le moment, il y a pas mal de choses autour du travail, par exemple. Le travail, les petites mains du travail, on va dire. Voilà, tout ce qui tourne autour de la condition féminine, par exemple. J'aime et j'ai envie de aussi mettre en avant tout ce qui tourne autour des cultures afro, d'Afrique, des Caraïbes, des Amériques, des questions aussi d'éducation, tout ce qui peut nous amener à agir à notre niveau local, les quartiers populaires, l'histoire, enfin voilà, il y a pas mal de thèmes.
Et les lecteurs sont au rendez-vous, Doudou soutient le projet depuis le début.
Beaucoup de gens ont tendance à dire qu'à Saint-Denis, les gens ne lisent pas, alors que c'est totalement faux en fait. Ce qui est en Saint-Denis, il y a du tout. C'est très bien, ça nous permet de voir Saint-Denis autrement en fait.
Car jusqu'ici, il existait une seule librairie dans cette ville de plus de 110 000 habitants. Il y en a très peu également dans les villes alentours. Marie-Georges habite à Gagny depuis 2 ans, mais elle est revenue spécialement à Saint-Denis pour voir ce fameux conteneur.
Ça fait du bien, ça donne du peps au quartier.
Le dealer de livres a d'ailleurs de nombreuses idées en tête pour animer sa librairie, des rencontres, des événements festifs, pourquoi pas proposer des livres d'occasion, car il souhaite en faire un lieu de vie plus qu'un point de vente.
Reportage de Fanny Blechner pour VMDN, le dealer de livres, librairie que vous pouvez donc découvrir sur le parvis de la gare de Saint-Denis en Ile-de-France et que vous pouvez aussi suivre sur Facebook et Instagram. Félicitations à nos gagnants du jeu de mardi, Christian Pakanga de Kinshasa en République démocratique du Congo, Fardel Bekarlis Epelé de Brazzaville au Congo, Dimon Armand de Parakou et Mickaël Bassoulet de Cotonou au Bénin. Ils recevront l'album de BD L'Hyper-Rêve de Marc-Antoine Mathieu paru chez Delcourt. La bonne réponse à la question était Hilarion. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec le rappeur Dinos pour son nouvel album Stamina chez Spectacular. Et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.